Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la millième génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur.
Du Seigneur son droit, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur.
Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Dieu qui croit en lui et la vie éternelle. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes. Et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : L'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit. « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent. « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme.
Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Les enfants du primaire, vous êtes attendus par le Père Gilles pour une homélie adaptée. Frères et sœurs en Christ, que la grâce du Seigneur soit toujours avec vous. Toute société, quelle qu'elle soit, est régie par des lois qui régulent la vie quotidienne de ses membres. pour garantir et favoriser une existence sûre et paisible. La communauté des croyants en Dieu que nous formons n'échappe pas à cette nécessité. Notre vie, à nous aussi, est structurée par la loi divine. Et en ce dimanche, nous sommes invités à méditer sur la raison d'être des commandements du Seigneur. Nous les avons entendus, ils sont tirés du livre de l'Exode. Et le premier de ces commandements que nous avons entendus n'en est pas vraiment un, mais il est de loin le plus important. Nous avons entendu « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Dans cette première parole, le Seigneur se présente comme le Dieu qui libère de la servitude. Et c'est donc à la lumière de cette grâce de libération qu'il nous faut accueillir chaque commandement comme une parole libératrice. Le décalogue ou les 10 paroles. Le décalogue est donc de ce fait comme un chemin d'apprentissage de la liberté. Oui, leur forme négative et prohibitive peut dérouter notre soif de liberté. Mais force est de reconnaître, frères et sœurs, que l'homme perçoit plus vite ce qui lui est défendu que ce qui lui est positivement ordonné. C'est l'obligation morale fait sentir à la liberté ses limites avant de lui faire découvrir, on va dire, les infinies possibilités de l'obéissance. Faites un test et dites aux gens, faites telle chose, voici telle chose que nous avons à faire, c'est une proposition. Et vous verrez combien de gens vous obéiraient. Mais quand les gens n'ont pas le choix, ils le font, n'est-ce pas, frères et sœurs? Chacun des commandements est d'une part une entreprise et une méthode divine. On va dire d'apprentissage et d'éducation à la liberté, mais par l'obéissance. Si vous vous rappelez au jardin d'Éden, par la convoitise, Adam et Ève ont désobéi et cette désobéissance les a conduits à être comme des dieux, ce qui signifie qu'ils sont devenus objets de leur idolâtrie. Et dans le décalogue que nous avons entendu, l'interdiction de l'idolâtrie, « Tu n'auras pas d'autre dieu devant moi », veut d'abord arracher les hommes que nous sommes à la tentation de ramener Dieu à notre pouvoir. Comme cela nous arrive souvent, nous voudrions contrôler Dieu, lui dire, dicter ce qu'il doit faire. Oui, dans un premier temps, cette interdiction veut donc nous arracher à cette tentation. Et ensuite, c'est aussi nous permettre de purifier notre relation aux choses que Dieu nous a données. Car vous le savez, l'idole, c'est ce qui nous occupe au point de faire de nous ses esclaves. La dépendance à une personne, à l'argent, au sexe, à la drogue, aux réseaux sociaux, la soif excessive de reconnaissance ou de pouvoir. D'autre part, frères et sœurs, comme chemin d'apprentissage de la liberté, les commandements sont encore les moyens par lesquels Dieu veut conduire l'homme vers sa fin bienheureuse. On peut lire, en effet, dans le livre du Deutéronome ce qui suit à propos des commandements. « Et demain, quand ton fils te demandera pourquoi ces exigences, ces lois et ces coutumes que le Seigneur, notre Dieu, vous a prescrites, alors tu diras à ton fils, « Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, mais d'une main forte, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Le Seigneur nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre le Seigneur notre Dieu pour que nous soyons heureux tous les jours et qu'il nous garde vivants comme nous le sommes aujourd'hui. » Frères et sœurs, le message est clair. Refuser le meurtre, le vol, la convoitise, l'adultère rend libre d'aimer en vérité nos frères et sœurs. Les commandements, pour ce faire, se présentent d'un côté comme un filet de sécurité pour la vie chrétienne et de l'autre comme des balises pour un chemin d'épanouissement humain vers la vraie liberté. Oui, les commandements sont là pour nous permettre de vivre ou de répondre à notre vocation fondamentale qui est bien sûr l'appel au bonheur. Frères et sœurs, Dieu ne peut pas nous libérer et aussitôt nous replonger dans un esclavage. Sa volonté, c'est de nous rendre vraiment libres. Et si justement nous appelons ces exigences, ou du moins ces prescriptions de commandements, c'est comme dit le pape François, pour souligner la force de l'amour avec lequel Dieu nous éduque son peuple, le peuple que nous sommes. Oui, les commandements sont une forme de présence et d'assistance à l'être humain dans son combat, dans sa lutte contre le mal. Nous pourrions donc aujourd'hui nous interroger, mais pourquoi est-ce que justement nous avons autant de mal avec les commandements, avec les préceptes de l'Église? Oui, que des récriminations contre les préceptes de l'Église. L'Église est trop dure, elle ne comprend pas. Ces lois sont ceci, cela, n'est-ce pas? Nous entendons soit souvent. Aujourd'hui, frères et sœurs, il importe que chacun de nous lise sa vie entière à la lumière de ces prescriptions qui nous viennent du Seigneur pour y découvrir les idoles qui l'empêchent d'être pleinement chrétien, mais aussi pour évaluer sa capacité d'obéir, son degré d'obéissance religieuse. Et cela, frères et sœurs, ne peut que nous interroger sur notre état d'esprit vis-à-vis de ces commandements qui nous sont donnés. Oui, comment les accueillons-nous? Comme carcans ou comme réducteurs de nos libertés? Quelle valeur leur donnons-nous exactement? Pensons-nous qu'ils soient encore d'actualité aujourd'hui? Comment les défendons-nous socialement? Dans le psaume 119, nous pouvons lire « Je trouve mes plaisirs dans tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. » C'est la prière d'un croyant qui est à notre image. Mais cette parole est-elle vraie pour nous? « Je trouve mes plaisirs dans tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. » Nous laissons-nous au quotidien conseiller par les exigences du Seigneur. Autrement dit, sont-ils notre référentiel? Parce que, frères et sœurs, dans le concret, l'observance des commandements du Seigneur va de pair avec une pratique religieuse vraie et une vie morale conséquente. Oui, selon quelle loi vis-tu dans ton quotidien? Suivant quel régime vis-tu? Nous avons entendu dans l'Évangile, l'amour de ta maison fera mon tourment. Autrement dit, cette présence de Dieu sera mon souci particulier, je la porterai dans mon cœur. À quel point, frère, à quel point, ma sœur, aimes-tu l'Église au point de lui faire confiance et de vivre selon ses prescriptions? Es-tu plein de zèle, toi aussi, pour ton Église et pour ta paroisse? Es-tu prêt à les défendre? Parce que ces commandements formulés à la deuxième personne du singulier, avec un « tu » personnel, frères et sœurs, font appel à notre responsabilité personnelle. Ils sont le moyen pour entrer en amitié avec Dieu. Ils sont le moyen pour entrer dans son alliance. Vivre des commandements, c'est donc rendre un culte à Dieu par notre vie. Mais qu'à cela ne tienne, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus attire notre attention. Il ne s'agit pas de rendre n'importe quel culte à Dieu. En chassant les marchands du temple, en les chassant, frères et sœurs, il attire notre attention, je dirais, sur les glissements qui peuvent advenir. Parce que Jésus, dans son geste, dénonce, on va dire, l'instrumentalisation de cette maison de Dieu à des fins mercantiles. Et nous savons, si cela est arrivé, c'est parce que c'est les lois qui ont été données ont été relativisées par l'homme. Il y a une interprétation fausse qui les a adaptées aux besoins des humains, qui ne les ont pas prises dans leur rigueur, ces lois. Au contraire. Alors, le geste de Jésus aujourd'hui vient éveiller nos consciences. D'abord, pour que nous puissions comprendre que les faux cultes sont partout. Et il est facile de penser que nous faisons plaisir à Dieu quand, justement, dans notre pratique religieuse, c'est nous-mêmes que nous recherchons. Là aussi est l'idolâtrie. Quand nous voulons une religion adaptée à nous-mêmes, quand nous voulons confectionner une religion qui nous convienne comme un habit, nous ne sommes plus dans une vraie pratique religieuse. Nous sommes sur le chemin de l'idolâtrie. Frères et sœurs, dans le psaume 19, il est dit « La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. » Oui, il clarifie le regard. Le geste de Jésus dans l'évangile de ce jour se veut critique. Critique dans notre vie. Il veut surtout nous aider, je dirais, à exercer notre esprit critique face aux lois sociales qui nous sont proposées pour que nous ne soyons pas que des consommateurs de lois. Il nous faut à chaque moment, je dirais, nous poser la question de notre vivre, ou du moins de la coïncidence entre ce qui nous est proposé à vivre et notre foi. Et les commandements qui nous sont donnés à vivre dans notre foi. D'ailleurs, en cela, Jésus, dans son geste, quand il répond aux Juifs pour se justifier, leur dit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Dans cette parole, il oriente notre regard vers sa passion et résurrection. Et nous savons que dans la passion et résurrection, qui est un événement grandiose, quelque chose se passe. C'est là que Jésus opère notre libération totale et définitive du péché. Il nous libère totalement. Mais en même temps, Jésus
oriente notre regard sur l'exigence qui est qu'il faut un changement profond et radical pour pouvoir, je dirais, rendre à Dieu un culte, un véritable culte. Frères et sœurs, pour nous inscrire dans cette logique du Christ, il nous faut accepter d'être transformés en profondeur par ces commandements que le Seigneur nous donne. Il nous faut accepter d'être façonnés par le Seigneur à travers ces commandements qu'il nous donne. Mais pour cela, il faut accepter d'en vivre au quotidien. Nous ne pouvons pas bâtir nos projets en dehors de Dieu. Il nous faut les bâtir en Dieu avec ces commandements qu'il nous donne. Frères et sœurs, comme le rappelle saint Paul dans la deuxième lecture, si nous confessons un Messie crucifié, ce n'est pas pour les beaux yeux du monde. Nous savons, comme il a dit, que cela est scandale pour les Juifs, scandale aussi pour les païens. Mais il nous dit que ce qui est folie pour les hommes est justement sagesse, c'est l'expression de la grande sagesse de Dieu. Si nous voulons, nous aussi, entrer dans le salut qui nous est proposé et pour lequel nous nous sommes engagés, je dirais, depuis le début de Carême, il nous faut, nous aussi, prendre à notre compte cette parole du Christ. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Il nous faut accepter de mourir en nous-mêmes. Il nous faut accepter cette transformation qui peut nous faire mal, mais qui aboutit, bien sûr, je dirais, à une chose bienheureuse. Aujourd'hui, frères et sœurs, à la lumière donc de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ dans sa passion, mort, résurrection, il nous faut, nous aussi, redécouvrir la richesse des commandements de Dieu, ce qu'ils signifient vraiment, pourquoi ils sont si importants pour nous, pourquoi nous devons les respecter et pourquoi surtout nous ne devons pas les relativiser. Ils sont les moyens pour répondre à l'appel du Dieu qui retentit depuis le début du Carême. Convertissez-vous, revenez à moi de tout votre cœur. Frères et sœurs, prions ensemble aujourd'hui pour que ce temps de Carême soit un moment d'une vraie réponse à cet amour infini de Dieu qui s'offre à tout moment à chacun de nous. Que Dieu nous en donne la grâce, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.